Troisième partie, le printemps des crimes. La famine.
La misère des hommes de France fut plus grande cette année-là qu'elle ne l'avait été depuis 100 ans. Et le fléau des siècles passés, la famine, réapparut. À Paris, le prix du boisseau de sel atteignit 10 sous d'argent et le sautier de froment se vendit jusqu'à 60 sous, taux jamais atteint. Cet anormal enchérissement résultait certes en premier lieu de la désastreuse récolte de l'été précédent, mais il était dû aussi pour une bonne part à la désorganisation de l'administration, à l'agitation que les ligues baroniales entretenaient en plusieurs provinces et qui rendait les échanges difficiles, à la panique des gens qui avaient engrangé par peur de manquer, à l'avidité enfin des spéculateurs. Février est le plus terrible mois à franchir durant les années de disette. Les dernières provisions de l'automne sont épuisées, de même que la résistance des corps et des âmes. Le froid s'ajoute à la faim. C'est le mois où l'on meurt le plus. Les gens désespèrent de revoir jamais le printemps, et ce désespoir chez les uns se tourne en abattement et chez les autres en haine. À prendre trop souvent le chemin du cimetière, chacun se demande quand viendra son tour. Dans les campagnes, on mangeait les chiens qu'on ne pouvait plus nourrir, et l'on chassait les chats redevenus sauvages. Faute de fourrage, le bétail crevait et l'on se battait autour des rebuts d'écarissage. Des femmes arrachaient l'herbe gelée pour la dévorer. On savait que l'écorce de hêtre faisait une meilleure farine que l'écorce de chêne. Des adolescents se noyaient chaque jour sous la glace des étangs pour avoir voulu y prendre du poisson. Il n'y avait presque plus de vieillards. Les menuisiers, hâves et surmenés, clouaient sans relâche des cercueils. Les moulins étaient muets. Des mères folles berçaient des cadavres d'enfants, parfois on assiégeait un monastère, mais l'aumône était sans pouvoir quand il ne restait rien à acheter que des suaires. Parfois, des hordes titubantes montaient des champs vers les bourgs dans le vain rêve de s'y faire donner du pain, mais elles se heurtaient à d'autres hordes d'affamés qui venaient de la ville et paraissaient avancer vers le jugement dernier. Il en était ainsi dans les régions réputées riches comme dans les régions pauvres, en Artois aussi bien qu'en Auvergne, en Poitou comme en Champagne, en Bourgogne comme en Bretagne, et même en Valois, en Normandie, en Beauce, et même en Brie, et même en Île-de-France. Il en était ainsi à Naufles et à Cresset. La malédiction qui depuis un an accablait la famille royale semblait s'être étendue pendant l'hiver au royaume tout entier. Guccio, lorsqu'il était revenu d'Avignon à Paris en escortant Bouville, avait bien traversé cette affliction. Mais logeant dans les prévôtés ou les châteaux royaux et munis d'un bon or pour satisfaire au prix démesuré des auberges, il avait regardé la disette d'assez haut. Il ne s'en souciait pas davantage une semaine après son retour, entretant sur la route de Paris à Naufles. Son manteau fourré était chaud, sa monture bien allante, et il courait vers la femme qu'il aimait. Il polissait les phrases par lesquelles il allait raconter à la belle Marie de Cresset comment il avait parlé d'elle avec Madame Clémence de Hongrie, bientôt peut-être reine de France, et comment son souvenir ne l'avait pas quitté un seul jour, ce qui était d'ailleurs la vérité. Car les infidélités fortuites n'empêchent pas de songer, bien au contraire, à qui l'on est infidèle. C'est même la manière la plus fréquente qu'ont les hommes d'être constants. Et puis, il décrirait à Marie les splendeurs de Naples, et il se sentait vêtu des prestiges du voyage et des hautes missions. Il venait se faire aimer. Ce ne fut qu'au voisinage de Cresset, parce qu'il connaissait bien le pays et lui vouait tendresse, que Guccio commença d'ouvrir les yeux sur autre chose que sur soi-même. Le désert des champs, le silence des hameaux, la rareté des fumées qui s'élevaient des masures, l'absence d'animaux, l'état de maigreur et de saleté de quelques hommes rencontrés, et surtout leurs regards, donnèrent au jeune Toscan un sentiment de malaise et d'insécurité. Et lorsqu'il pénétra dans la cour du vieux manoir, au-dessus du ruisseau de la Mauldre, il eut l'intuition du malheur. Pas un coq sur le fumier, pas un meuglement du côté des étables, pas un aboi de chien. Le jeune homme avança sans que quiconque, serviteur ou maître, parût à son approche. La maison semblait morte. « Sont-ils tous partis ? » se demanda-t-il. « Les a-t-on saisis pendant mon absence ? Qu'est-il arrivé ? Ou bien la peste aurait-elle sévi par ici ?» Il noua les rênes de son cheval à un anneau du mur et entra dans le corps du logis. Il se trouva en face de Madame de Cresset. « Oh, messire Guccio ! » s'écria-t-elle. « Il me semblait bien, vous voici donc !» Des larmes étaient venues aux yeux de Dame Eliabelle, et elle prit appui sur un meuble, comme si la surprise la faisait vaciller. Elle avait maigri de 20 livres et vieilli de 10 ans. Elle flottait dans sa robe qui naguère se tendait si fort sur ses hanches et sa poitrine. Elle montrait une mine grise et des joues affaissées sous sa guimpe de veuve. Guccio, pour dissimuler sa surprise à la voir si changée, regarda la grande salle autour de lui. Auparavant, on y percevait une certaine dignité de vie seigneuriale maintenue malgré de petits moyens. Aujourd'hui, tout y disait la misère sans défense, le dénuement désordonné et poussiéreux.